Histoire de la Réformation en Europe, au temps de Calvin, livre 5, chapitre 6, projet de l'empereur, du duc de Savoie et de l'évêque contre Genève, 1530 à 1532. Bellegarde arrive à Augsbourg, il obtient audience de Charles Quint. Angoisse de l'empereur à Augsbourg, opprimer l'Allemagne puis Genève, décision de l'empereur, discours de Bellegarde au duc de Savoie, plan de Bellegarde contre Genève, mesures révolutionnaires, l'évêque s'y prend autrement, il envoie Machard à Genève, menace de l'évêque, sa constante agitation, il veut se fâcher, son mécontentement de Besançon-Hugues, l'empereur ordonne à Genève d'extirper les sectes, le Zwinguri de Genève. Au moment où l'Évangile allait entrer dans Genève avec Farel et Saunier, l'évêque et prince faisaient de nouveaux efforts pour y rétablir sa puissance. Une crise approchait. Il y avait une grande décision à prendre. Qui aura le dessus dans l'Église ? Sera-ce les bulles du pape ou l'écriture de Dieu ? Qui l'aura dans l'État ? La servitude ou la liberté ? De grandes puissances étaient décidées à opprimer cette petite ville. Mais d'humbles serviteurs de Dieu allaient y entrer successivement, y planter l'étendard de Christ et assurer la victoire à l'indépendance et à l'Évangile. Le duc de Savoie, désirant porter à Genève un grand coup et invoquer à cet effet la coopération des plus puissants monarques de l'Europe, avait envoyé à Charles Quint lors de la diète d'Augsbourg le ministre ordinaire de ses hautes œuvres, l'homme dont il s'était servi pour mettre à mort Lévrier et pour arrêter Bonivard, le sieur de Bellegarde. À peine arrivé à Augsbourg, le 11 septembre 1530, le maître d'hôtel du duc s'était rendu vers le sire de Montfalconet, qui faisait alors près de Sa Majesté l'office de grand écuyer, et qui avait un bien gros crédit avec l'empereur, en sorte que rien ne lui a été caché. Des ennemis que le duc avait à la cour impériale y avaient donné de ce prince une très mauvaise impression. Aussi faisait-il une pension de 300 écus à l'écuyer qu'il gagna dans la circonstance dont nous parlons, en suivant avec soin toutes les directions de Bellegarde. Celui-ci, fort impatient de faire entrer l'empereur dans les plans qui avaient pour but de prendre Genève, pria Montfalconet de demander à son maître l'heure qui lui plairait pour lui pouvoir faire révérence. « Dites-lui, répondit Charles Quint, qui avait sur les bras toutes les affaires du protestantisme et de l'Allemagne, dites-lui que, vu mes grandes occupations, il attend 2 jours. » Bellegarde attendit, et le lendemain des 2 jours, il se trouva très exactement dans la chambre de l'empereur. Fort impatient de voir paraître le puissant monarque, il préparait ce qu'il avait à lui dire contre Genève, quand, au lieu de Sa Majesté, il vit arriver de Montfalconet seul, avec ce message « L'empereur vous fait dire que, pour le moment, vous ne fassiez que me bâiller les lettres de Son Altesse, ainsi que celle de sa très redoutée dame, et que, un continent après, il vous donnera audience. » Ce délai contrariait fort le député. Pour le consoler, l'écuyer le mit dans la confidence des angoisses que donnaient à Charles Quint les protestants d'Allemagne. « L'empereur, je vous assure, lui dit-il, étant tel être qu'il lui était impossible de réduire les affaires de par-de-ça de l'Empire en un état qui est pourtant plus que raisonnable. Aussi a-t-il abandonné le conseil des hommes pour recourir entièrement à notre Seigneur, puisque le sens du monde me fait défaut, a dit Sa Majesté, ce matin même, 14 septembre, j'espère que la divine providence me sera en aide. Ensuite, l'empereur s'est confessé et s'est rendu dans l'oratoire de son palais pour y recevoir notre Seigneur. Il a aussi ordonné que des prestations, c'est-à-dire des confessions, communions et prières, soient faites en tout lieu où il y a des personnes dévotes. Comme ces deux personnages s'entretenaient, Charles Quint sortit de son oratoire. Monsieur de Bellegarde lui fit une profonde révérence, lui présenta très humblement les compliments du duc et de la duchesse et lui remit leurs lettres. L'empereur, que le temps pressait, lui dit de revenir le lendemain à son lever. Bellegarde n'y manqua pas et Charles Quint le reçut avec beaucoup de bienveillance. « Donnez-moi des nouvelles du bon portement de Son Altesse, lui dit-il, de celui de Madame ma bonne sœur, c'est-à-dire la duchesse Béatrice, et de mon neveu, monsieur leur fils. » Bellegarde répondit à ces informations, puis il fit à l'empereur toutes les communications dont le duc l'avait chargé. Il espérait que l'empereur entrerait tout de suite en conversation avec lui sur les projets formés contre Genève. Il n'en fut point ainsi. « Je suis bien aise, dit Charles, que le duc vous ait envoyé vers moi, mais vu mes grandes occupations, veuillez faire un mémoire de ce que vous croirez être le plus expédient pour dépêcher l'affaire qui vous amène, puis baillez-le au seigneur de Granvelle. » Nouveau délai. La réponse du ministre se fit attendre vu les nombreux offices dont il était chargé. Toutefois, Bellegarde parla à 7 reprises avec Charles Quint, donnant chaque fois à entendre à Sa Majesté de peu à peu les affaires du duc. Mais souvent, l'empereur, tout en paraissant écouter les débats entre Genève et Turin, avait l'esprit ailleurs. Il était tourmenté des affaires de l'Empire et il ne le cacha point à l'envoyé de son beau-frère. « Je n'entends point, dit-il un jour à Bellegarde, que le duc soit ni démis ni déjecté, mais la diète d'Augsbourg est toute brouillée et rompue. Je n'ai pas grand espoir. Il y a longtemps que je n'ai vu les princes de la Germanie me mener ainsi par temps et longueur, me remettant de terme en terme, en sorte que je suis hors d'espoir et que j'ai le cerveau tout troublé. Ah, s'il plaisait à Dieu que les autres princes furent de mon opinion, la chrétienté ne serait point en tel trouble. » Ce sont les mêmes mots dont il a plu Sa Majesté d'user, ajoute Bellegarde dans son mémoire. Ces paroles le surprenaient. Cet homme qui savait si bien mettre l'un de ses adversaires en prison et l'autre à mort, s'étonnait de ce qu'un prince aussi puissant que Charles ne suivît pas une méthode si simple et si expéditive. Il se hasarda à donner un conseil à l'empereur. Il avait compris que l'alliance des protestants faisait leur force. « Sire, dit-il, interrompez de grâce les collégations, c'est-à-dire les alliances, tant passées qu'à venir, qui ont été faites en grand préjudice et dont les conséquences sont si dangereuses. Pour le présent, dit Charles Quint, il n'est pas temps. Je ne puis à cette heure réduire les princes et les villes de la Germanie qui sont contre la foi, mais je suis décidé à ne point abandonner cette œuvre, et quand je l'aurai achevée, ce qui regarde Son Altesse, dites-le lui bien, ne sera pas mis en oubli. Ainsi, abattre les protestants de l'Allemagne, puis en faire autant des huguenots de Genève, tel était le projet de Charles Quint. Ceux-ci étaient à ses yeux aussi dangereux pour les races latines que les premiers l'étaient pour les peuples germains. Enfin, le 6 octobre, Granvelle, chancelier de l'empereur, c'était le père du fameux cardinal, accompagné du commandeur, eut une entrevue avec Bellegarde et lui communiqua la réponse de l'empereur. « Sa Majesté pense, concernant Genève, que pour ne pas tomber dans les dangers que le duc a de tout temps craint et évité, il faut que nulle partie ni pièce en ces états ne se fasse suisse. Vous devez y prendre d'autant plus garde que la nature des cantons est de s'élargir et de s'agrandir toujours, et que la rébellion et ferme obstination de messieurs de Genève les porteront à se jeter de désespoir dans cette maudite erreur. » Ce serait pour le duc dommage et perte, et pour l'empereur petite réputation, vu que Genève relève de l'Empire. Voici donc l'expédient que l'empereur a trouvé. Il ordonne au duc et à Genève de lui présenter dans 2 mois leurs titres, droits et privilèges, alors Sa Majesté décidera. Quant au prélat, à l'évêque et aux chanoines, l'empereur recommande soit au duc, soit à eux, de mettre finale conclusion à leur débat. S'il le fait, le duc sautera un bon coup de trouble et aura bien mieux le prélat à sa direction et obéissance. Après quelques autres communications, le chancelier et le commandeur se retirèrent et le sieur de Bellegarde envoya immédiatement une dépêche au duc pour lui transmettre cette décision. Peu après, le sieur de Bellegarde quitta Augsbourg et revint à Turin, résolu d'exciter encore plus le duc son maître à détruire à la fois dans Genève l'indépendance et la réformation. Ce qu'il avait vu à Augsbourg, les dangers dont le protestantisme allemand menaçait la suprématie du pape et celle de l'empereur, avait augmenté son zèle. Les institutions du Moyen-Âge semblaient avoir eu alors peu d'amis plus fanatiques et de champions plus zélés que l'actif, intelligent, dévoué, cruel courtisan qui avait mis à mort Lévrier dans le château de Beaune. « Monseigneur, disait-il au duc, considérez les périls auxquels vous êtes exposés dans l'affaire de Genève, soit à cause des circonvoisins, lesquels sont si près et des loups ravisseurs, soit à cause de la petite foi que le monde présent a en toute qualité, bon droit et raison que l'on puisse avoir. Qu'arrivera-t-il si nous ne restons pas les maîtres dans la lutte que nous avons avec cette nouvelle secte? Que de fâcheries, que de pertes, que d'ennuis, vous le savez mieux que moi. On a le désir de vous tenir allègre, monseigneur, mais c'est pour mieux jouir de vous et s'élargir à vos dépens, soit en deçà, soit en delà des monts, de tous côtés. Vous avez dans votre chambre des papiers qui montrent que les Genevois vous payaient taille et subside, qu'ils aidaient à marier les filles de votre maison, de plus qu'ils donnaient aide en temps de guerre à vos prédécesseurs, et que c'était à eux qu'en temps de paix ils en appelaient dans leurs procès et leurs jugements. Et maintenant, que ne font-ils pas? Ils vous ont ôté le Vidoma, ils vous ont pris le château de Lille, ils vous ont fait beaucoup d'injustices préjudiciables à vos droits, ils se sont rendus coupables de meurtres et d'autres maux intolérables. Davantage, ils se mettent à cette perverse secte pour achever de se perdre. Mais nous saurons bien en finir avec eux, monseigneur. Vous avez un empereur à votre dévotion duquel tout dépend. Oseront-ils en sa présence être méchants et rebelles? L'empereur, premièrement, les remettra sous votre puissance, comme vous et vos prédécesseurs les avez eus. De plus, pour leur rébellion et pour les maux qu'ils ont perpétrés, il pourra les condamner à la privation de quelques privilèges, celui qui vous est le plus nuisible. Enfin, il pourra faire pour vous, à votre diète, c'est-à-dire votre gouvernement, un châtel ou forteresse dans la ville, à la place qu'il vous plaira, exiger des Genevois pour l'entretien de la garnison, un tribut qui devra être payé toutes les années. Ainsi, la dite ville sera bien tenue en votre subjection. Quant aux évêques, l'empereur pourra leur commander de vous rendre le devoir qui revient au Saint-Empire comme étant son représentant. Il leur ordonnera de vous obéir comme à lui-même et les remettra vis-à-vis de vous en toute obéissance, considérant aussi que leur approche de leur générale réformation, comme la raison veut. Et si les dits de Genève ne veulent obéir, leur déraison les y portera, le dit seigneur empereur les mettra au banc de l'Empire comme rebelles et vous vous les prendrez. Vous en ferez vos sujets entièrement, confisquant tout leur pouvoir et leur avoir, et vous serez ainsi pour jamais établi de bon droit dans Genève. Peut-être n'aurions-nous pas cité toutes ces paroles du sieur de Bellegarde si le document dont elles sont tirées n'était pas resté jusqu'à présent inconnu. Ces allégations étaient fausses. Il n'a jamais été fait de présent par la ville de Genève au duc de Savoie sans qu'un acte spécial n'ait établi que la libéralité était spontanée et sans conséquence pour l'avenir. Le Vidoma était un fief donné par l'évêque et qui faisait de celui auquel il le transmettait un simple officier du prince. Enfin, les ducs de Savoie n'étaient point les vicaires de l'empereur. Mais si les allégations de Bellegarde quant au passé étaient fausses, ses projets quant à l'avenir étaient énormes. Une bonne forteresse sera bâtie dans Genève. Les Genevois en paieront la garnison et un brutal asservissement les éloignera de cette perverse secte et les tiendra pour jamais dans une stricte obéissance sous le joug de leur maître. Quant aux évêques, on les obligera d'obéir au duc, surtout puisque leur approche de leur générale réformation. Il paraît donc au XVIe siècle déjà la raison, comme parle Bellegarde, demandait l'abolition de la puissance temporelle des princes ecclésiastiques. Était-on donc plus avancé que de nos jours? Je ne le pense pas. Ce rude politique voulait simplement substituer au despotisme des évêques le despotisme des princes, comme plus efficace et plus strict. Enfin, et la fin couronne l'œuvre, si les Genevois résistent, il y aura conquête et confiscation de tout leur avoir et pouvoir. De cette façon, conclut l'avocat de ces mesures révolutionnaires, le bon droit de son maître sera à jamais établi. Voilà ce que Genève devait attendre de la Savoie. Qu'avait-il à espérer de l'évêque? Pierre de la Baume, qui, indigné des prétentions du duc, lui avait un jour répondu fièrement « Je ne dépends que du pape ». C'était en apparence du moins adouci et se rapprochait de la Savoie, tellement que les Genevois disaient « Notre prince est d'accord avec notre ennemi ». Nous sommes ici transportés dans une toute autre sphère. Si le duc voulait régner par la force, l'évêque voulait user de ruse. Le pasteur de Genève n'était pas en état, lui, de bâtir une forteresse au milieu de la ville. C'était par les négociations et les intrigues qu'il écraserait la réformation et la liberté. Au lion succédait le serpent. Pierre de la Baume, connaissant l'influence que Besançon-Hugues avait sur ses concitoyens, le sollicitait de lui venir en aide. Il lui écrivit, pendant la dernière année de sa vie, celle de Hugues, une série de lettres que nous avons eu aussi le bonheur de retrouver. L'évêque et le citoyen de Genève n'étaient plus de si grands amis qu'auparavant. Le premier faisait beaucoup de reproches au second, soit que celui-ci le mécontentait sous le point de vue politique, soit peut-être que son catholicisme se fût un peu refroidi dans ses fréquents entretiens avec les réformés de Berne. Le 11 avril 1532, l'évêque alors à Arbois, impatient de récupérer dans Genève son ancien pouvoir, résolut d'ouvrir la campagne et écrivit à Hugues « Besançon, j'ai toujours fait pour vous tout ce qui m'a été possible. Vous l'avez bien vu par les effets, je n'en parle pas en reproche, mais je suis tout ébahi que vous le reconnaissiez si mal. Si vous aviez aussi bonne affection pour moi que je vous en ai donné l'occasion, vous eussiez si bien aboyé que mon autorité ne fût pas chutée dans l'inconvénient où elle est, et que je n'aurais pas la peine qu'il me faut avoir pour la remettre en nature. Je sais bien les excuses que vous en savez faire. Il n'est si mauvais sourd qu'il ne veut pas ouïr. Toutefois, je me suis fié à vous, et je me fie encore à présent à votre fidélité reconnue. Faites en sorte, je vous prie, que j'ai l'occasion de continuer. Dans peu de temps, j'enverrai l'un de mes gens à Genève pour mes affaires. Vous entendrez de lui le surplus. Je prie Dieu qu'il vous donne, Besançon, tout ce que vous désirez. » 10 jours après, le secrétaire de l'évêque, Machard, se rendit d'Arbois à Genève, chargé d'une mission politique et porteur pour Hugues d'une lettre qui, soit à cause des sujets délicats auxquels elle se rapporte, soit parce que Machard devait l'expliquer de vive voix, n'est pas fort claire. Hugues s'empressa de lire la missive du prélat. « J'envoie mon secrétaire, disait celui-ci, pour certaines affaires que je l'ai chargé de communiquer à vous le tout premier. Vous ajouterez foi à ce qu'il vous dira de ma part, comme si je vous le disais moi-même. Je désire que la matière dont il s'agit sorte à bon effet pour gratifier les princes dont elle procède, sans doute l'empereur et le duc. Employez-vous-y de la bonne main, afin qu'il s'établisse un bon rapport de moi à mes sujets, aux 10 princes, ce qui n'est pas de petite conséquence pour toute la République. » Hugues ne se souciait point d'entrer dans les plans formés par l'évêque, d'accord avec les princes. Aussi, quand Machard, de retour à Arbois, eut fait son rapport à son maître, celui-ci se montra fort irrité. Il se plaignit de la hardiesse excessive et de l'insubordination étrange des jeunes voix et en écrivit sévèrement à l'ancien syndic. « Besançon, lui dit-il, les nouvelles que vous m'avez données de Berne me dédommagent un peu des insolences et mauvaises coutumes que vous autres, mes sujets, prenez envers mes officiers, usurpant ma juridiction sous l'ombre de certaines paroles que vous, Besançon, avez dites au Conseil général. J'entends maintenir cette dite juridiction contre vous, vraiment, contre plus grand je l'ai fait. J'espère que vous vous réduirez à votre devoir et que vous vous rendrez mes sujets. Cela me donnera occasion d'être bon seigneur. Autrement, ne vous fiez pas à moi, les choses ne demeureront point ainsi que vous les avez mises. Communiquez cela à mes sujets si besoin est. » L'évêque, cette lettre nous le montre, était irrité contre Genève. Tantôt plus, tantôt moins, mais il se trouvait dans une agitation continuelle. Un jour, on lui rapportait telle parole de Hugues qui le réjouissait, puis peu après, il apprenait quelque acte des Genevois qui redoublait sa colère. Vers le 13 mai, quelqu'un lui ayant dit que Hugues montrait beaucoup de bon vouloir à son égard, le prélat en fut tout joyeux. « J'ai été averti, lui écrivit-il, du dessein que vous avez de déclarer en tout lieu le tort que mes sujets me font. Vous montrerez, j'espère, par de bons effets, quand je vous en requerrai, que vous n'êtes pas homme de deux paroles. » Mais bientôt, d'autres nouvelles arrivent à l'évêque. Il est dans le trouble, la crainte, l'angoisse. Il se livre à tous les mouvements d'une politique inquiète et soupçonneuse. Il a des accès de colère. Il devient téméraire, violent. Puis tout à coup, il se détend. Il n'a plus ni force, ni danger, ni courage. Toutefois, en général, c'était l'indignation qui dominait chez lui. Nul, ni parmi ses officiers, ni parmi les chanoines, il y avait une collégiale à Arbois, nul ne le comprenait, ne le consolait, ne l'encourageait. Il était seul et promenait son agitation dans ses appartements et ses jardins. « Je trouve fort étrange les réponses que me font mes sujets, » dit-il. « Il me déplairait que je tombasse en fâcherie. » Quelques jours après, il dit « Je suis fort ébahi, il me semble que mes sujets entendent mal leurs affaires. S'ils ne s'amendent, je serai contraint de procéder par une autre voie, laquelle me déplaira. Il me semble qu'ils feront bien d'obéir à leur seigneur sans faire les princes. Cela ne peut durer. » Mais cela durait. Genève, où l'on écoutait Olivetan, où l'on affichait partout en face du pardon de Rome, le grand pardon général de Jésus-Christ, où le conseil ordonnait à l'unanimité de prêcher l'évangile selon la vérité, sans y mêler aucune fable, Genève, quoique Pierre de la Baume pût dire et faire, se séparait de l'évêque et du pape. Le 3 septembre 1532, l'évêque, toujours plus irrité, écrit de nouveau à Besançon Hugues, mais avec un surcroît de mauvaise humeur. « Me déplaît la sorte dont mes sujets usent envers moi, de jour en jour, déclarant qu'ils veulent s'élever contre mon autorité. Cela durera tant qu'il pourra, j'ai toujours été des endurants, mais à présent, il me conviendra mieux de me fâcher. Si j'essaye de faire quelque chose que les jeunes voient n'est ni à plaisir ni à profit, ils ne devront pas s'en ébahir. Certes, je n'ai guère à donner des récompenses à mes serviteurs et à mes amis pour me servir si mal. Je pense, Besançon, que vous désirez le bien, mais je voudrais en avoir les faits. On s'excuse toujours sur vous. On assure que je vous ai dit ce qu'il devrait faire. Je n'entends point cette danse, et je prétends n'avoir rien dit à cette intention de laquelle Dieu veuille les garder. » L'évêque de Genève. On disait dans Genève que l'évêque était disposé à céder quelque chose, qu'il l'avait dit en secret, et les Huguenots en profitaient pour faire acte d'indépendance. Pierre de la Baume écrit à Besançon Hugues de la Tour de Mai le 28 novembre. « Besançon, j'ai vu ce que vous m'avez écrit touchant la façon de faire contre mon autorité et au détriment de mon Église. Je ne sais d'où cela procède, sinon que l'on m'a toujours fait entendre que, selon la pensée commune, mes sujets se fussent beaucoup mieux guidés et m'eussent mieux obéi qu'ils n'ont fait si vous eussiez voulu y mettre à la main, comme vous me l'aviez promis, vous efforçant de procurer la paix de la cité qui souffre à mon endroit le plus de pertes. » Quant à ce que vous m'écrivez, que vous pensez être à mon indignation, le seul regret que j'ai à votre égard, c'est que vous n'avez pas voulu tenir ce que vous m'avez promis. La récompense que je vous ai faite était pour entretenir mon bien en paix, et il est plus que jamais en guerre. Il ne tient qu'à vous que ma juridiction ne soit en son être. Je vous écris afin que vous vous acquittiez de votre devoir. Vous me ferez plaisir, je ne voudrais pas que tant de paroles fussent sans effet. Quant à moi, j'ai accoutumé de faire quelque chose par vigueur. Je verrai ce que ce sera. » Telles sont les menaçantes paroles par lesquelles se termina la correspondance de Pierre de la Baume avec Besançon Hugues. Jusqu'à présent, on ne trouvait plus de traces de ce grand citoyen après le 26 septembre 1532. Si la lettre que nous venons de donner est de cette année, cette limite serait reculée de 2 mois. Il serait mort entre le 28 novembre 1532 et le 18 février 1533. C'est ainsi que l'évêque, sans cesse préoccupé de Genève, ne pensait qu'à y établir son ancien pouvoir. Mais l'indépendance de cette ville avait des ennemis plus redoutables encore. Charles Quint avait commandé aux Genevois de repousser de leurs murs la Réformation. « Plein de sollicitude pour votre salut, leur avait-il écrit, et apprenant que certaines opinions et sectes nouvelles commencent à pulluler parmi vous, nous vous exhortons sérieusement à ne pas les admettre, à les extirper, à vous y appliquer avec la diligence la plus parfaite, à ne pas permettre que l'on enseigne chez vous la moindre chose contraire aux décrets et aux traditions de vos ancêtres, à retenir au contraire avec une constance inébranlable la foi, les rites, les cérémonies que vous avez reçues de vos pères. Vous recevrez ainsi une digne récompense du Dieu Tout-Puissant et vous mériterez de nous tous une espèce de gratitude. » Genève n'avait point obéi à ces ordres du puissant empereur. Les affaires de l'Allemagne l'avaient d'abord empêché de contraindre cette petite ville à suivre ses ordres souverains, auxquels les peuples barbares du Nouveau Monde eux-mêmes obéissaient. Mais maintenant, la paix de Nuremberg était signée, Charles s'étant accommodé avec les protestants d'Allemagne, pourrait bien tenir à son beau-frère la promesse qu'il lui avait faite par Bellegarde et lui prêter main-forte contre les Huguenots de Genève. L'assassin perfide de Lévrier commençait à espérer qu'il serait possible d'établir une forteresse dans Genève, avec fossés, gros murs, flanqués de tours et de bastions, et une bonne garnison de halbardiers, d'arquebusiers et d'artilleurs, qui tiendrait la ville et tout le pays dans un complet assujettissement sous le joug de ses maîtres. Gessler, envoyé au nom de l'Autriche pour anéantir les libertés des Suisses, n'avait-il pas bâti une forteresse au-dessus d'Altdorf, Zwing-Uri, la contrainte du riz, et les libres enfants de ces monts n'y payaient-ils pas les moindres velléités d'indépendance par de longues et coûteuses détentions dans des tours obscures? Pharaon, n'en avait-il pas donné l'exemple en Égypte? Pourquoi ne ferait-on pas de même pour dompter les Huguenots? Des forteresses, des canons, des arquebuses, des chaînes, voilà ce que Genève avait à attendre. Avant que bien du temps s'écoulât, les Genevois verraient en effet marcher contre eux des forces redoutables, chargées d'exécuter les desseins de l'empereur et du duc. Mais la providence de Dieu a toujours gardé cette ville, et dans ce moment même, une force nouvelle, gage de liberté, allait lui être donnée. L'évangile du Fils de Dieu allait y entrer. Or, celui que le Fils affranchit est véritablement libre.